RFI Matin, la suite. Il est 6h44 en temps universel. Et on se dit, mais l'heure est encore aux commémorations un peu partout en Europe. 80 ans après la chute de l'Allemagne nazie et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En Autriche aujourd'hui, une cérémonie marquera ainsi les 80 ans de la libération du camp de concentration de Gusen dans le nord du pays. 71 000 personnes déportées de près de 30 nationalités différentes, dont de nombreux Polonais, plus de la moitié d'entre elles, n'en sont jamais revenus. Cela en fait le camp le plus meurtrier d'Autriche et pourtant Gusen est tombé dans l'oubli après la guerre. 80 ans plus tard, le travail est en cours pour enfin créer un mémorial digne de ce nom sur ce site où se trouvent aujourd'hui des habitations privées. Isorias s'est rendu sur place. Reportage.
Érigé comme camp annexe du camp de concentration de Mauthausen, Gusen sera le plus meurtrier des camps autrichiens, surnommé l'enfer des enfers en raison des conditions de détention extrêmement dures. Mais on est surpris en arrivant à Gusen par le peu de vestiges restants. On aperçoit quelques stèles, le four crématoire et à quelques mètres seulement de celui-ci, derrière un mur fin, plusieurs maisons. Cela car au lendemain de la guerre, ni les Soviétiques, qui occupèrent la zone jusqu'en 1955, ni l'Autriche, qui récupéra le terrain à cette date, n'ont voulu faire de Gusen un lieu de mémoire. Des parcelles du camp furent ainsi vendues, explique Bernard Mühleder, en charge du mémorial de Gusen.
À partir du milieu des années 50, il était possible d'acheter des terrains ici, ce que de nombreuses personnes ont fait. D'abord parce que c'était bon marché, et aussi parce que c'était pas très loin de la ville de Linz, où il y avait du travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent ici depuis deux ou trois générations. Cela veut dire que pour eux, cet endroit est devenu leur foyer, d'une certaine manière. Mais bien sûr, l'histoire nazie du lieu reste là.
Renate Herbst s'est rendue de nombreuses fois à Gusen avec son père, qui y fut déporté. Il est décédé en 2020, mais elle continue, à 76 ans, à faire ce pèlerinage mémoriel. Et chaque fois, elle revoit son père se recueillir dans ce lieu où trop peu d'éléments, dit-elle, rappellent les milliers de victimes.
Je pense qu'il voulait s'y rendre pour ne pas oublier, parce que l'homme a tendance à refouler les mauvaises choses. Il ne parlait pas de ce qu'il ressentait, mais je vois encore cet homme, petit et mince, se tenir voûté et laisser couler ses larmes. Moi, je ressentais moins de la tristesse que de la colère et de l'incompréhension.
En 2021, l'Autriche a enfin pu racheter certaines parcelles du camp d'importance historique, notamment celle où se trouvait la place d'appel. Un concours à échelle européenne pour la conception d'un nouveau mémorial doit se terminer cet été. Il sera construit ces prochaines années. Si Renate Herbst salue ce projet, elle regrette le fait que son père ne le verra jamais concrétisé, car tout cela vient trop tard.
Il n'y a plus personne. Tout le monde est déjà mort. Alors qui va s'y rendre pour vraiment commémorer les victimes? Une poignée de personnes. Mon père dirait sûrement que si déjà 5 personnes pensent différemment après, c'est déjà ça. Ce serait pour moi aussi, bien sûr, une satisfaction si cela ressemblait un peu plus à un mémorial qui commémorerait vraiment les victimes. Et j'espère devenir aussi indulgente que mon père l'est devenu avec l'âge.
Le nouveau mémorial devrait être achevé en 2031. Isorias, Vienne, RFI.
Notre reportage international en Autriche à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Les catholiques ont donc un nouveau pape, Léon XIV, le nouveau chef de l'Église, américain, péruvien d'adoption, qui porte un regard attentif au pays du Sud. Il devra continuer de s'adresser aux périphéries, comme l'avait fait son prédécesseur, le pape François. Et on parle ce matin de l'un des dossiers qu'il trouvera sur son bureau, à ce volet, celui de l'inculturation. Cette démarche qui consiste à faire dialoguer le rituel catholique avec des cultures locales. François en avait été un ardent défenseur. Et les attentes restent fortes à ce sujet, notamment sur le continent africain. Notre grand invité Afrique ce matin est justement l'un des intellectuels qui réfléchit sur l'inculturation au Bénin. Il s'appelle Florentin Nangbé, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Au téléphone de Laurent Corot.
Bonjour Florentin Nangbé.
Bonjour.
À quel point les fidèles de votre pays, le Bénin, ressentent-ils le besoin d'un plus grand dialogue entre le rite catholique et les traditions?
L'avenir de l'Église dépendra de la profondeur de l'inculturation. L'inculturation, c'est un processus qui vise à intégrer le christianisme dans une culture tout en respectant et en enrichissant cette dernière pour créer une expression unique et vivante de la foi. Pour l'avenir de l'Église, les fidèles catholiques doivent œuvrer à travers la communauté et la transmission pour éduquer véritablement les enfants, les générations futures, pour que leur foi s'approfondisse véritablement sur la transmission des cultures. C'est fondamental. Sans ça, les autres cultures vont prendre le pas sur nous.
Votre pays, le Bénin, est un pays qui a déjà beaucoup cheminé dans cette réflexion sur l'inculturation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Florentin Nongbe, quelle a été l'expérience du Bénin dans ces questions d'inculturation, notamment avec le mouvement du Sillon Noir dans les années 70?
Si vous participez à une célébration eucharistique au Bénin, vous allez constater réellement qu'il y a une dimension culturelle béninoise dans la célébration. C'est en 1970 que nous avons commencé l'expérience de l'inculturation de la foi chrétienne en Afrique, et notamment au Bénin. Un mouvement initié et mis en place par Monseigneur Adou Kounouba Télémy. Et ce que nous avons pu faire jusque-là, premièrement, c'est l'intégration des rites et symboles locaux. Et je peux vous donner deux exemples. Les funérailles chrétiennes inculturées et la procession théâtralisée des offrandes. Quand il y a un décès, vous allez voir la manière dont le chrétien catholique décédé est enterré. Et il y a aussi l'utilisation des langues locales et de la musique traditionnelle. Donc les chants liturgiques, les lectures et parfois même les homélies sont proposées dans différentes langues béninoises pour montrer la profondeur de l'évangile, parce que la compréhension est plus totale, ce qui renforce le sentiment d'appartenance et la vitalité de la communauté. En outre, prochain, il y aura un colloque pour faire le point de tout ce que nous avons fait jusque-là pour pouvoir atteindre les objectifs escomptés.
Alors, quel bilan justement faites-vous de l'action du précédent pape, le pape François, sur ces questions de dialogue entre foi catholique et culture locale? On se souvient que François était très engagé en faveur de l'inculturation et avait mis en valeur le rite zaïrois en le présentant comme un modèle d'inculturation pour l'ensemble de l'Église universelle.
Le pape François, il considère qu'une foi pas inculturée n'est pas authentique. Vous voyez son engagement? Donc, il est allé très loin, très loin. Et les Africains sont très fiers de ce pape.
Qu'attendez-vous justement du nouveau pape, Léon XIV, sur ces questions d'inculturation?
Mais ce que nous attendons de lui, dès lors qu'il était très proche de pape François, nous sommes dans une logique de continuité. Il doit approfondir et consolider les acquis de pape François et évoluer dans sa dynamique avec une certaine ouverture par rapport aux Africains et venir régulièrement en Afrique pour pouvoir mobiliser les laïcs autour de ces idéaux.
Florentin Nongbe, pensez-vous qu'il soit utile ou nécessaire que le Vatican réunisse un jour un synode africain, comme il y a eu un synode d'Amazonie, afin notamment d'aborder ces questions d'inculturation?
Ah, c'est mon souhait. C'est important qu'il y ait ce synode, faire le point, le niveau de mise en œuvre de l'inculturation en Afrique, relever les défis, c'est important.
Monseigneur Adou Konou, l'un des pionniers de la réflexion sur l'inculturation au Bénin, estimait nécessaire de suivre l'appel lancé aux Africains par le pape Paul VI à Kampala en Ouganda le 31 juillet 69. Vous pouvez et vous devez avoir un christianisme africain. Ce sont les mots qui avaient été prononcés par Paul VI. Est-ce que c'est un appel qui est toujours d'actualité selon vous?
Bien sûr, tout en étant dans la hiérarchie de l'Église catholique. Il faut qu'il y ait une certaine autonomisation et pour qu'on soit plus à l'aise par rapport à ce qui se passe.
Florentin Nongbe, merci.
Florentin Nongbe, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, notre grand invité Afrique, signé Laurent Corot. C'est un cinéma populaire dont le public ne cesse d'augmenter à travers le monde. Le cinéma nigérian à l'honneur jusqu'à demain de la Nollywood Week à Paris, la production nigériane qui compte de nombreuses femmes productrices et réalisatrices. Et ce n'est pas un hasard si la réalisatrice et actrice Aïssa Maïga a été choisie comme marraine de cette édition, elle qui met un accent sur la question des femmes et de la lutte contre la corruption. Un signal fort que la Nollywood Week met en avant pour cette édition, Ouda Ibrahim.
Le travail de la police, ce n'est pas ça. Mais il y a de la mauvaise graine dans toutes les professions, répond un chef policier à son subordonné dans le film La nuit du 7 juin du réalisateur Tokamak Baror, qui traite de la corruption au sein de la police nigériane en se basant sur une histoire vraie. Autre film, pour Amina, qui, en plus de montrer une femme extraordinaire, s'attaque à la corruption en milieu éducatif. Bikia Graham Douglas, productrice et actrice qui tient le rôle principal.
It's about accountability.
Le film pour Amina parle de la responsabilité. Nous y voyons une mère qui lutte contre un système corrompu pour que sa fille ait accès à l'éducation comme il se doit. Il s'agit d'une femme presque illettrée et qui n'a pas de pouvoir. Mais elle utilise le pouvoir des médias pour avoir des réponses du gouvernement. Et donc cette histoire raconte comment nous devrions faire pour responsabiliser les autorités afin de s'assurer que nous construisions une société meilleure. Tout cela se fait à travers le prisme d'une relation mère-fille pour que cette fille ait une bonne éducation.
Nollywood Week montre également des sujets plus complexes, comme dans le film Out in the Darkness de Sara Kwaji, réalisatrice et scénariste.
Au Nigeria et dans le reste du monde, la santé mentale des femmes, en particulier les problèmes comme la dépression postpartum, a été négligée et rejetée. Elle est largement incomprise. J'ai donc décidé de donner de la visibilité à ce sujet pour combler ce vide narratif qui a désespérément besoin de plus de sensibilité et de compassion.
Avec la nouvelle génération, le cinéma de Nollywood connaît des transformations profondes. Tierno Ibrahim Imadia, critique de cinéma.
Ce cinéma a été très dans les genres fantastiques, horreur, et maintenant elle tend à revenir vers une analyse de la société et par le cinéma interroger les rapports qui existent dans cette société. Et donc ce cinéma-là travaille à traduire les réalités. C'est un retour vers plus d'ancrage et moins de cette tendance très Nollywood qu'on connaissait au début.
Nollywood, cette industrie très jeune, est aujourd'hui touchée par la crise économique que traverse le Nigeria.
Ibrahim pour notre reportage Afrique et la Nollywood Week, le festival parisien du cinéma nigérian, c'est jusqu'à demain dans la capitale française.
RFI à Libreville, 104 FM. Freetown, 89.9 FM.
L'actualité des médias, comme chaque samedi. Bonjour à Maureen Rochegonde.
Bonjour Julien.
On parle aujourd'hui de l'espace d'information alternatif qui est en train de se bâtir à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump.
Oui, il suffit de regarder la photo produite par l'IA de Donald Trump, habillé en pape, partagée sur son réseau social de Truth, pour mesurer ce qu'a d'alternatif et d'égotique la communication du président. Ce que ne pouvait pas deviner Donald Trump, c'est qu'il y a bien un pape américain depuis jeudi, mais que c'est peut-être tout son contraire. Lorsqu'il était évêque ou cardinal, Robert Francis Prevost a partagé des publications critiquant le programme anti-migrant de Donald Trump ou les propos de son vice-président, le catholique J.D. Vance. Il appelait aussi à ne pas rendre l'idéologie maîtresse de sa vie au mépris du dialogue. Alors, pour ce qui est de l'image du pop Donald, il ne l'a pas commenté, mais la conférence catholique de l'État de New York l'a fait pour lui. Elle a trouvé que cette image n'avait rien de drôle ni d'intelligent et qu'il ne fallait pas se moquer des catholiques pratiquants qui sont d'ailleurs majoritairement conservateurs aux États-Unis.
Et Donald Trump a réagi à son tour en plaidant l'humour.
C'est ça. Les catholiques ont adoré et ce sont les médias menteurs qui n'ont pas le sens de l'humour, a-t-il affirmé. Il a aussi publié une image IA de lui en combattant Jedi de Star Wars avec un sabre laser rouge comme Dark Vador. Fin avril, il avait déjà accusé les médias américains d'être malades, je cite, et de mériter une enquête pour fraude électorale après des sondages défavorables dans le Washington Post, le New York Times, ABC News ou NBC. Des médias alors traités d'ennemis du peuple ou de criminels pessimistes. Les agences de presse comme l'AFP ou Reuters ont, elles, été exclues du bureau ovale, voire de la Maison Blanche comme AP. L'administration Trump a coupé leurs abonnements et propose à la place un système média parallèle avec des briefings réservés à des influenceurs ou des podcasteurs sympathisants.
Une chambre d'écho plus vaste mais aussi plus partisane à Maury.
Oui, c'est ce que l'universitaire américaine Sonia Gibson-Rankin appelle un espace de réalité alternative avec son propre flux d'infos renvoyant vers les déclarations de Trump ou des articles en sa faveur. Parallèlement, la Maison-Blanche démantèle ou supprime les financements des médias publics, non seulement à l'étranger Voice of America ou Radio Free, mais désormais au plan national, la chaîne PBS et la radio NPR. Et face à cette paupérisation, cette marginalisation organisée de l'information, eh bien Donald Trump multiplie les messages, les tweets et les attaques. Il veut apparaître au centre de tout, comme l'éléphant dans la pièce, avec ou sans IA.
Amaury de Rochegonde, merci beaucoup.
Et le journal dans une minute sur RFI, à tout de suite.
L'épopée des musiques noires.
La destinée du chanteur et pianiste Stevie Wonder, qui va fêter ses 75 ans, est aujourd'hui connue de tous. Ses nombreux succès discographiques et ses engagements personnels ont fait sa légende. Que sait-on cependant de ses premiers pas, quand à 12 ans, il suscitait déjà l'attention des oreilles les plus affûtées? L'éditeur Patrick Frémaux nous raconte son parcours vertigineux dans l'épopée des musiques noires avec Joe Farmer, tout à l'heure à 13h31.
RFI. Géopolitique.
La scène internationale est marquée par des discours et des actes violents, illustrés par l'invasion de l'Ukraine, les manœuvres chinoises autour de Taïwan et les actions du président Trump envers l'Ukraine, le Canada, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ces intimidations exercées par les États-Unis ou encore la Chine s'étendent du Proche-Orient à l'Asie, créant un panorama inquiétant. Le professeur Frédéric Charion nous livre son regard dans Géopolitique, proposé par Marie-France Satin, tout à l'heure à 17h10.
RFI.